Oui, ça va tout à fait, ça va très bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'économie
Oui, moi je suis venu aujourd'hui pour vous
circulaire, c'est ça.
parler, oui, d'économie circulaire. J'en ai entendu parler pour la première fois en novembre dernier.
Oui.
C'est qu'on a reçu de la grande visite à l'Université Laval. C'était un expert du sujet qui est venu de France. Lui, il s'appelle Jean-Claude Lévy. Il est le conseiller spécial en économie circulaire au ministère des Affaires étrangères en France.
Alors, on va parler de ça pendant l'émission et on va faire jouer aussi quelques pièces musicales. On commence avec Jean Arache, le poète Jean Arache, dont quelques-uns des poèmes ont été repris par différents groupes québécois, dont Ostewan and Jam, qui a fait 20 piastres. Ça, c'est tiré d'un album qui s'appelle Je rappe tout seul quand Jean Arache, un album que vous pouvez vous procurer dans les internets, comme on dit. À tout de suite.
Rien qu'un 20 des Levi's ben t'es broke. Pour mes pipos, au moins que le zéro derrière le 1 dans la colonne gauche. Pas de crédit d'impôt, grosse taxe sur ta fiole. Avant, je te payais facile une teinte dans le tapis pour ta maxima taupe. Une assiette de bin, du sirop pour le déj, la tite. Une tourtière avec ta bière et puis la caissière ta type. À soeur d'un taverne, je t'amène deux titres. Frais ta tite, à waitress, te check comme si t'avais la lèpre pis l'hépatite. Tu me donnes-tu des honneurs, les bras me disent sans crise m'avoir le Dow Jones, bon m'asseoir, mais ça tu vas pas le savoir. Ah, ben je te paye même pas ton cob, t'es coupé du nord comme ton crédit dans leur coffre fort. Ils t'offrent un char, investis dans ton hypothèque à place de payer de la plasma pour rentrer leur petit gros chèque. Ça spécule des bulles sous l'océan, des bungalows, des tonnes d'accro au crédit comestible qui vous donne d'assaut. Après, ils pognent ta peau, référençant les normes fachos. Le ratio d'art du tableau t'éclate dans la face comme une chasse du chapeau. Et abus ça vaut. Part pour un parc de Monaco, en chantonnant du Charles Navour. Même les riches sont tristes, résatisfaits l'appétit. Apathie face au petit vin qui traîne. Face au cash crédit, gointez-vous le visage, une inflation, one overdose, les scraps qui vont voir Oxfam, la seule place où est-ce que je vaux quelque chose.
Oh non, ma valeur baisse peu à peu aux yeux du monde. C'est ma faute, à moi j'irai boire, c'est tout le monde. 4 comme moi, puis ça commence à être bon. Vive billets bruns, yeah. Aujourd'hui, ceux qui ont rien que 20 piastres, ils sont cassés. Ils disent que je vaux encore quelque chose, mais que c'est pas. C'est dire que je valais 3 flasques de Jacques Vallée. Dans le temps, je valais plus qu'une petite fiole de chèvre. Quand j'étais à table, je fais de quoi à boire, mais je te laisse sur ton appétit. Une bière, plus de pourboire et je m'affaiblis. Josephine veut un autre bébé, et je me sacrifie. Un autre voix pour le droit à lui. Celui qui me donne se sent généreux à soir. Et les quêteux, eux sont toujours heureux de m'avoir. Puis vlog les jeunes en perdent encore. Je vaux même pas un abonnement annuel au devoir. Bof, ouais. J'ai loin trouvé ça rose de voir tomber jusqu'à ce point-là. Je me dis que je prends un Simpson, puis là je me sens moins poche. Oh non, c'est pas drôle de voir tomber jusqu'à ce point-là. C'est dans sa 10, puis ça mord en pleine force.
Ostewan and Jam du poème de Jean Arache. La chanson, c'était 20 piastres. Jean Arache, c'est un poète, c'est un nom évidemment d'artiste, Jean Arache, et c'est un poète, c'était un pharmacien, Jean Arache, Étienne. C'est quand même incroyable, hein? Il a vécu jusqu'en 1970 et il avait comme passion la poésie. Il a remporté des prix d'ailleurs, cet individu. J'ai complètement oublié son nom. Je vais tâcher de le retrouver en fouillant un peu tantôt et puis je vous le donnerai. Mon nom est Michel Monette en passant et je suis avec Étienne Blondeau et on parle d'économie solidaire. Étienne, on connaît l'économie sociale, mais l'économie circulaire, ça nous dit moins.
En effet.
Qu'est-ce que c'est au juste?
En effet, parce que ce monsieur-là, qui est l'expert français en la matière, Jean-Claude Lévy, quand il est venu en parler à l'Université Laval, lui-même, il admettait que c'était inconnu. Il disait, l'économie circulaire, ça n'a aucune signification pour le grand public. Il disait que c'était absent des grands discours internationaux sur l'écologie ou l'économie. Qui parle d'économie circulaire? Malheureusement, personne. Mais, et c'est là le point très important, la Chine en parle. On l'ignore. Mais les politiciens chinois, les administrateurs, les chercheurs en Chine en parlent sans arrêt et s'échangent beaucoup d'articles et d'idées pour avoir une économie plus verte en Chine, une économie qui est circulaire.
Ils ont intérêt, au fond, parce qu'ils ont beaucoup moins de ressources qu'ici.
Absolument. Eux, ils ressentent la nécessité d'abord de contrer la pollution, pardon,
oui.
Qui est un grave problème là-bas, un besoin pressant. Alors, les administrateurs, là, doivent réagir. Alors, d'abord, pour introduire le sujet, M. Lévy, qui était à l'Université Laval, il a commencé en faisant la différence entre une économie linéaire et une économie circulaire. L'économie linéaire, c'est celle qu'on connaît. Ça, c'est tout simplement quelqu'un produit quelque chose, comme, je sais pas, moi, une tarte, et ensuite un acheteur arrive, achète la tarte, consomme la tarte, et là, il reste un déchet, par exemple, l'assiette d'aluminium dans le fond. Et là, lui, peut-être qu'il va se dire, je vais l'acheter à la poubelle, et après, c'est oublié. Dans ma tête, ça n'existe plus. Il met ça sur le bord du chemin, les éboueurs viennent ramasser ça et ça disparaît.
Dans notre esprit, c'est un type d'économie qui a été beaucoup mis de l'avant par le marketing, entre autres, les entreprises
Absolument.
Qui voulaient vendre le plus possible.
C'est ça. On est dans le marketing, on est dans le acheter maintenant, acheter dans la plus grande quantité possible. On est même dans l'obsolescence.
C'est presque un jeu de mots, au fond, acheter pour acheter.
Oui.
Parce que c'est acheter.
Finalement, le but, et c'est ça que le problème de l'économie linéaire, c'est qu'on ne pense qu'à l'achat, qu'à la consommation, mais on oublie ce qui arrive au bout. Il en reste toujours quelque chose, il reste des déchets. Qu'est-ce qu'on en fait? Et il faudrait avoir une réponse à ça. Qu'est-ce qu'on en fait avant de crouler en dessous de montagnes de déchets? On n'arrive plus à trouver des nouveaux terrains pour des dépotoirs, et ainsi de suite.
Alors lui, il a trouvé réponse à ça.
Oui, lui, il fait partie des chercheurs qui veulent réfléchir à ce problème-là et qu'on cesse de penser de manière linéaire, qu'on pense plutôt de manière circulaire. Lorsqu'on arrive avec l'assiette d'aluminium, plutôt que d'y voir un déchet, on se demande, est-ce qu'il n'y a pas une ressource, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de réintroduire ça dans l'économie? Et là, vous l'aurez compris, avec l'aluminium, la réponse toute faite, c'est le recyclage. L'aluminium, ça peut être recyclé presque entièrement, je pense quasiment 99%.
Ah oui.
Alors, les chercheurs, dont ce monsieur Lévy-là, sont conscients qu'il n'y a rien qui est récupérable entièrement. Pareil pour l'énergie, il va toujours avoir une perte comme ça. C'est les lois de l'univers, paraît-il. Il faut quand même réfléchir à comment travailler intelligemment avec nos déchets. Faut pas les empiler dans des dépotoirs, faut se demander quoi faire avec. Alors, lui, il veut faire une vraie science. Une science, l'économie circulaire, qui réfléchirait à comment exploiter au mieux les déchets. Alors, c'est de s'interdire qu'il y ait des déchets simplement entassés dans des dépotoirs, s'interdire l'obsolescence programmée, par exemple une laveuse qui sait qu'elle va mourir après X années, admettons.
On en avait parlé d'ailleurs avec Yannick Marcil, je me rappelle, il y a quelques mois, l'obsolescence programmée, c'est terrible.
Un problème assez grave et qui vise ce que je vous disais tout à l'heure sur l'économie linéaire, vendre plus, acheter plus, et après moi le déluge, finalement.
Voilà.
C'est ça. Alors, voilà, il veut des chercheurs formés à rechercher dans un territoire, une ville, une région, regarder tout ce qui est consommé là, tous les déchets qui ressortent après cette consommation-là, et se demander, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de réintroduire les déchets? Donc là, il y a plein d'exemples qui peuvent nous venir en tête. Une région qui a beaucoup d'exploitation forestière, qu'est-ce qu'on fait avec la pulpe de bois, les déchets, les branchages? Est-ce que ça peut pas être une énergie, une biomasse, qu'on dit, une énergie qui peut être brûlée, réutilisée pour chauffer ou faire de l'électricité? Vraiment, les possibilités sont infinies.
Ou chauffer des serres au Québec, entre autres.
Oui, oui, il y a plein de belles options comme ça. Et lui, d'ailleurs, il était au Québec, pas seulement comme un invité pour ce colloque-là sur l'économie circulaire, il était aussi pour faire son travail de chercheur, pour aller sur place, sur le terrain et voir qu'est-ce qui se fait. Alors lui, il disait qu'il était quelques jours auparavant allé à une petite ferme, une ancienne ferme laitière de Charlevoix qui s'est réinventée, qui a décidé de ne plus être une productrice de lait classique, mais plutôt de devenir une fromagerie, et qui a exploité divers brevets déposés en Europe pour utiliser des technologies qui permettent de récupérer le méthane dans les déjections animales, et toute leur énergie provenait de là. Alors, vraiment, on réutilise quelque chose qui nous paraît peut-être à prime abord inexploitable.
Oui, tout à fait, c'est vrai.
Alors, c'est une petite entreprise qui, en plus, contribue au développement économique de la région. Alors, pour lui, c'est un bel exemple. Et il a dit, bon, un autre exemple qui lui venait à l'esprit dans sa conférence, c'était un incinérateur en France de déchets irrécupérables. On ne peut pas mettre ça à la récupération. Alors, on les brûle. Ça fournit de la chaleur qui peut chauffer des bâtiments, peut-être même des pâtés de maison entiers. Et ça donne aussi du CO2. Mais du CO2, que plutôt que de le relâcher bêtement dans l'atmosphère, on le récupère, on le purifie et ça devient un élément qui permet, qui est une ressource nécessaire pour faire des composés chimiques qui, eux, servent à faire de l'huile à moteur. Alors, pour faire de l'huile à moteur, il faut extraire du CO2. Alors, pourquoi pas l'extraire d'incinérateur? Il fallait que quelqu'un y pense, quelqu'un le fait.
Oui, tout à fait, oui.
Et lui, qui est un chercheur qui s'intéresse à aller sur le terrain pour découvrir des modèles qui marchent, eh bien, lui, il a découvert que c'était une excellente idée. Et quand il regarde des exemples comme ça, c'est pas avec l'idée de les exporter à l'identique. Il n'y a rien qui peut vraiment se transposer d'un pays à l'autre comme ça à l'identique. Mais ça aide à la réflexion. Si les chercheurs qui étudient ça et qui voient que ça marche, eh bien, tant qu'à lui, l'écologie peut devenir une science viable.
Ah, ça me fait penser que c'est peut-être effectivement une belle façon de voir les choses parce qu'on a tendance en économie à vouloir faire quelque chose qui fait partout, qui fonctionne partout de la même façon, qui est fait partout de la même façon, mais il faudrait peut-être être davantage ancré dans la région, dans l'endroit où on produit et où on consomme.
Vous remarquerez que dans les exemples que j'ai donnés, c'est plutôt des modèles de PME. Donc, on est dans des régions qui, des fois, doivent se réinventer. L'économie peut être difficile par moment, par période. Alors, il faut vraiment des entrepreneurs locaux qui se demandent quoi faire avec ce que j'ai ici, comment exploiter au mieux mon terrain, mes ressources. Et finalement, c'est ça. C'est pas l'État qui vient d'en haut, qui parachute... des administrateurs qui disent « vous allez faire ci, vous allez faire ça ». Non, c'est vraiment des modèles qui sont nés comme ça, je dirais presque à l'abri des regards, le monde n'en parlait pas. Mais alors, c'est là que le chercheur, un vrai chercheur sérieux en écologie, doit venir et plutôt que dire à tout le monde quoi faire, il doit aller sur le terrain, voir ce qui se fait, voir ce qui marche.
C'est intéressant parce que je vous demandais au début, c'est quoi le lien avec l'économie sociale? Puis au fond, souvent les initiatives locales... naissent sous forme d'entreprise
C'est crucial. C'est sûr que l'État central a toujours une utilité, mais il faut une place pour l'initiative, les bonnes idées. Il ne faut pas passer à travers un milliard d'étapes pour avoir des approbations. Il faut que quelqu'un, finalement, se mouille, se lance.
Oui, et à côté de l'entrepreneuriat privé, ben, il faut vraiment trouver comment aider, favoriser... Oui. Au maximum, l'entrepreneuriat social, ça me fait penser que j'en parlais avec des gens du ministère de l'économie, dont j'oublie maintenant le nom, parce qu'il a changé de nom, l'industrie de l'économie, en fait. Je leur disais, oui, mais qu'est-ce que vous faites pour les entreprises d'économie sociale? Et c'est pas dans leur champ. C'est quand même incroyable. Alors, il y a cette tendance à travailler en silo, malgré que les gens quand même se parlent là, d'un ministère à l'autre. Enfin, on va, si vous voulez bien, Étienne, on va prendre une pause. On va écouter une chanson de Laure Ryan qui s'appelle « Travailler pour moins vivre » et on va poursuivre toute cette question de l'économie sociale.
Apprendre des vers, lire Baudelaire, profiter du temps qui passe trop vite, écouter le chant des oiseaux, reposer mon corps et mon esprit au jardin du temps libre. Mais ce moment de grâce n'existe pas. Travailler plus pour gagner plus, dormir moins pour se porter moins bien, être homme, robot, la belle ça. Des lendemains qui chantent et m'accabler des mots de société.
Des soucis à petit crédit, ça se fait. Des soucis à fort intérêt, ça se fait. Finir dans le mouroir des affaires que l'on appelle le business. Travailler plus pour gagner plus, dormir moins pour se porter moins bien. Être homme robot, la belle ça. Laissez me réchauffer le cœur, écouter le chant des oiseaux, ouvrir ma porte à mes amis, être présent pour ma famille. Mais le travail a bouffé ma vie, mes loisirs et ma santé ne sont pas à ma portée. Travailler plus pour gagner plus, dormir moins pour se porter moins. Ça manquant de temps dès le petit matin. Travailler plus pour gagner plus, plus, plus. Contre ce plus, ce toujours plus, au riz de la société d'aujourd'hui. Je scande les mots de l'espoir, avec vous je scande les mots de l'espoir. Travailler moins pour vivre mieux, par le partage du travail. Travailler moins pour vivre mieux, moins d'inégalités sociales. Travailler moins pour vivre mieux, reposer mon corps, nourrir mon esprit. Travailler moins pour vivre mieux, au jardin du temps libre.
C'était Laure Ryan, travailler moins pour vivre mieux, travailler moins. On a l'impression qu'on nous incite beaucoup à travailler, 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 consommer, consommer, consommer. Mm-hmm. On a parlé de cette alternative qui est l'économie circulaire. On l'a un petit peu décrite quand même assez brièvement. Maintenant, oui. Concrètement, ça se traduirait par quoi?
Oui, parce que en commençant ces conférences, il y avait tendance à parler d'exemples qui avaient été créés finalement par des entrepreneurs locaux hein, qui n'ont pas de rapport direct avec cette idée-là d'économie circulaire. Alors lui, il dit que bon, l'économie circulaire, c'est plutôt l'idée de faire de l'écologie une science la plus sérieuse possible. Parce que l'écologie, souvent, on pense à des futurs possibles et tentant une économie verte et on se dit « Ah, ce serait extraordinaire », mais là, la question, c'est « Oui, c'est évident que ce serait mieux, mais il faut prouver que ça fonctionne. Hein? »
Oui.
Faut d'abord le tenter, ne serait-ce qu'à petite échelle, puis ensuite tirer les conclusions que ça marche. Donc, c'est ça qu'il dit, lui. D'abord, il est désolé que tout le monde travaille en silo. Il y a les écologistes qui font leurs théories pas toujours concrètes de leur côté. Il y a les urbanistes qui réfléchissent dans leur coin sur d'autres choses. Il y a les économistes qui ne parlent pas aux autres. Voilà.
Ouais, ouais, ouais.
Alors, il veut rassembler tout ce beau monde-là pour finalement prouver ce qui semble évident. T'sais, on dit que c'est évident qu'une économie plus verte fonctionnerait. Mais là, il faut le prouver. Lui, ce qu'il dit, c'est ce qui est évident n'est pas toujours avéré. Hein? Il faut voir que c'est avéré que l'écologie marche. Alors, il faut rassembler tout ce monde-là et qu'ils réfléchissent à créer des exemples. Comme par exemple, si on se dit qu'il faudrait des énergies renouvelables, par exemple la géothermie, l'hydraulique, le solaire, eh bien, pour prouver que c'est viable et excellent pour des communautés, eh bien, il faut faire des tests, il faut faire des projets.
Tout à fait,
Alors, on en fait de l'énergie géothermique, par exemple, pour certains quartiers, certains gros bâtiments, et ensuite, on prouve que c'est viable et que les coûts, finalement, se remboursent eux-mêmes tellement que c'est excellent.
C'est pas l'Université Laval aussi où on exploite la géothermie, peut-être?
C'est possible pour
Peut-être ça serait à vérifier.
Oui, peut-être dans un de leurs pavillons plus récents. C'est sûr que c'est une des meilleures formes d'énergie, si vous voulez mon avis.
Oui.
Alors, voilà. Ce qu'il veut, c'est cesser de faire des mots creux. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais À notre époque, on a le greenwashing. Je ne sais pas si c'est un équivalent en français, mais c'est ça. C'est des entreprises qui veulent se donner une image écolo. Alors, ils font des petits quelque chose ou bien du marketing ou des donations. Mais finalement,
plus vert que vert.
Ouais, on s'entend que ça change pas grand-chose au final. C'est creux et on dirait qu'à chaque semaine, quelqu'un a inventé sa nouvelle théorie miracle. Alors, on entend parler de smart economy, green, et coller à peu près tous les mots qui existent. Alors, lui, il est un peu découragé de ça. Il veut quelque chose qui soit concret et qui puisse pas juste être un petit mot, un petit préfixe cute, mais qui amène des preuves de son efficacité. Parce que lui, le ras-le-bol de tous ces mots-là, plus vert que vert, comme vous dites, c'est quelqu'un qui en a parlé avec un mot très drôle. Lui, il disait, cette idée-là de mettre écho avant chaque mot, lui, moi, ça me fait penser à de l'écohérence.
Oui.
Un mot qui a fait rire ce monsieur-là, qui en a fait peur. Alors voilà, le but, c'est d'avoir des applications concrètes. Si tu as une technologie que tu crois que ça améliore, par exemple, notre production d'énergie, trouve un milieu qui s'y prête bien, crée-le, et ensuite, des experts qui seront les chercheurs en économie circulaire, par exemple, vont voir comment ta technologie fait pour réintroduire les déchets, pour avoir une énergie qui ne vient pas à court, là, qui va être réellement renouvelable.
Au fond, ce que j'en comprends, ce qu'il dit, c'est que si on était vraiment sérieux, on arrêterait d'en parler, on se mettrait vraiment à décider ensemble concrètement qu'est-ce qu'on va faire. Parce que c'est pas chacun tout seul dans son coin.
C'est vrai.
On peut faire des initiatives personnelles, recycler, etc., mais il faut que ce soit vraiment davantage global, davantage tous les intervenants qui décident ensemble de se mettre à changer la façon de produire et de consommer.
Tous les intervenants d'un milieu, d'un territoire. Hein? Par exemple, que si c'est, disons, la ville de Québec qui voudrait se réinventer comme verte et exploiter les énergies géothermie.
Ah, c'est un beau projet pour notre maire, ça.
Alors, ça serait magnifique. Alors là, c'est les intervenants de Québec qui devraient se parler. Il faudrait pas une échelle plus haute, provinciale ou fédérale, qui vienne mettre des bâtons dans les roues. Non, c'est les régions qui doivent prendre des décisions de ce genre-là. Alors, c'est là qu'on arrive à l'exemple de la Chine, parce que la Chine fonctionne comme ça. Juste un mot là-dessus, c'est que c'est les régions qui ont l'idée, par exemple, d'une centrale d'épuration quelque part, et là, c'est le maire qui trouve le financement en grande partie. C'est pas le gouvernement central qui arrive, qui décide, on détruit tout, on reconstruit ça ici. Non, c'est vraiment les localités, les régions qui prennent les décisions là-bas. C'est un modèle qui a du bon.
Ben justement, on va en parler de ce modèle-là dans la deuxième partie de l'émission. Là, d'ici à la fin de la première partie, on va écouter notre ami Richard Desjardins dans une pièce, superbe pièce, qui s'appelle Phénoménal Philomène. C'est magnifique, cette chanson. Ça dure 7 minutes. On écoute Richard Desjardins.
Ouais, mais ça bossait pas mal. La barmaid bossait. La machine à pinotes bossait. Le boss de la place bossait. Le piano man bossait. Ça bossait pas mal à l'hôtel central. Un troc de bière supplémentaire. À soir, il y a une attraction spéciale, une vedette du tonnerre. Elle joue de rien, elle chante même pas, elle sait même pas danser. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle fait là? Avouez, elle lit dans les pensées. Phénoménal Philomène. On regarde pas la dépense. 8h30, horloge Molson. Il y a de l'empilade devant l'entrée. Les victimes rentrant une par une, ça me donne le temps de les présenter. Le boss de la place mange des pinottes pour faire passer les petites crampes. Le cash y brûle, le show white hot. À soir, ça va brosser dans le camp. Oh yeah! Les deux qui rentrent et puis qui sortent, c'est pas des livreurs de pizza. Concessionnaire d'émotions fortes. Petite ligne gagnon, puis son homme de bras. Assis au bar, une gang de guibous, des amateurs de vérité. À soir, sont pas mal marabouts, sont pas tout seuls dans le monde entier. Docteur Cancer et son épouse, propriétaire de belles pelouses. Puis ben du monde, sa loi la combe, ben autre bad luck, puis c'est la tombe. Là-bas, 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 dans le coin sombre, de petits couples très open. Le bonheur n'est qu'un songe, amen, amen, les tombées qu'une. Oh, la petite Sophie, la fusée de poêle, elle a pas l'âge, elle a pas sa carte. Mais qui peut blanc, mais qu'à s'asseye, elle s'en vient mettre son cul sans mappe. Tension, tension, le coq du village, une nouvelle fille chaque soir. Y'a pas la mémoire des visages, un coq ça monte par en arrière. Le grand là-bas, on le connaît pas, c'est un genre de rastaquaire. Petit dictionnaire Robert, rastaquaire, étranger aux allures voyantes, affichant une richesse suspecte. Exemple, le pape en Afrique. Le grand là-bas, on le connaît pas, c'est un genre de rastaquaire. Toute la journée, il y a une niaise là, gros char à la porte, limousine noire. On se crée dans une grande parade, des hommes de rien pis des grosses poches. Il y a même un bouquet de gare malade, un harlequin dans chaque sacoche. Ah, les gars. Bon, mais là, je commence à être bien tanné. Place au spectacle, place à l'action. C'est l'heure de la vérité. Le monde se ferme, le stage allume. Mesdames, messieurs, l'hôtel central présente la vedette de la semaine directement de Kosabskal. La phénoménale phénomène. Une bonne main, s'il vous plaît.
Il mélange les spermes du mari d'une quantité qui est fixe et les spermes du mari fertilisent l'œuf, la femme, la mère.
Vous écoutez CKRL.
Outre l'intérêt des enfants à naître, l'espacement raisonnable des naissances constitue aussi un facteur essentiel pour l'équilibre du couple, pour la santé physique et mentale de la femme et pour son épanouissement.
L'insécurité est la chose la mieux partagée du monde.
Depuis 2008, la mesure Première Ovation aide les talents émergents de Québec en leur donnant les moyens de créer, de profiter d'encadrement et de vivre leurs premières expériences professionnelles. Couvrant 8 disciplines artistiques, les actions de Première Ovation contribuent également à une meilleure diffusion des créateurs et favorisent l'accès au spectacle de la relève. Découvrez les programmes offerts sur premièreovation.com.
Première Ovation vous invite à découvrir les artistes émergents de Québec.
Du 17 décembre au 11 janvier, le Cercle des auteurs de la Relève de Québec occupe la galerie de la Bibliothèque Saint-Jean-Baptiste avec l'exposition littéraire Fragments.
Visitez premièreovation.com pour en apprendre plus.
CKRL 89.1.
Ce
c'était une autre que de 24th Street Wailers avec deux belles pièces, Aim to Please, et ensuite on a entendu The Road Song. C'est un spécial sur le blues canadien, l'émission Filigrane ce soir.
François Gagnon anime Filigrane dans un instant.
Alors, ce n'est pas dans un instant, Filigrane, mais c'est ce soir à compter de 19h, si je me rappelle bien. Rebonjour, Étienne. On est dans l'économie circulaire aujourd'hui. On a un peu expliqué ce que c'est l'économie circulaire. Mm-hmm. On est rentré un peu plus dans le détail sur le comment on pourrait amener une région à devenir de plus en plus une localité, ouais, à être de plus en plus en mode économie circulaire. Mais là, on va parler d'un endroit dans le monde où déjà c'est passablement avancé.
Tout à fait. La Chine est un bel exemple à ce sujet-là. Si j'en parle, c'est parce que le conférencier qui s'exprimait là-dessus, là, Jean-Claude Lévy, oui, l'expert français, c'est que s'il travaille au ministère des Affaires étrangères de France, c'est parce qu'en fait, il a fait une carrière de diplomate. Il a été un diplomate de la France en Chine pendant assez longtemps, pendant des décennies. En fait, lui, il dit qu'il a vu l'économie de la Chine grandir sous ses yeux, finalement. Lui, au fil des décennies, il a vu les immeubles pousser comme des champignons, il a vu l'économie se développer, les usines apparaître partout. Alors, il a été un témoin privilégié de ce passage-là à une économie développée, un passage...
Assez rapide.
J'allais dire même brutal.
Oui.
Parce que là... Il s'est passé quelque chose, en fait, le mois de novembre, là, je vais en parler, c'est que non seulement ces derniers mois, la Chine est devenue la première économie mondiale, elle est aussi le plus gros pollueur au monde actuellement, elle est aussi au premier rang là-dessus. Et ce qui s'est passé en novembre, c'est que pour la première fois, elle a décidé de signer un accord sur la lutte contre le réchauffement climatique. Non, c'était un accord entre les États-Unis et la Chine, oui, entre Obama et Xi Jinping. C'est un accord mineur, faut l'avouer, parce que il n'impose aucune contrainte à la Chine pour ce qui est de réduction de gaz à effet de serre avant 2030. Alors, ils sont patients, faut le dire, mais c'est quand même un moment, je pense, majeur, parce que la Chine ne voulait pas parler de réduction de ces gaz à effet de serre auparavant. Alors, Jean-Claude Lévy, lui, a introduit le sujet en parlant de cet accord-là. Et il faut avouer que lui est pessimiste sur la question. Parce que, lui, il voit un grave problème avec les accords internationaux. Ces accords-là ne font pas parler les régions. Les localités, les villes n'ont pas de voix dans ces négociations-là. Alors que c'est elles qui se retrouvent avec le problème de devoir finalement refaire leur économie et réduire les gaz à effet de serre, réduire la pollution. Mais c'est pas leurs initiatives à eux et ils n'ont pas de mots à dire sur les procédés ou l'échéancier. Alors lui, il voit mal comment ça va arriver à quelque chose de concret.
Si on c'est ça que j'allais dire, ce qui fait que finalement ça fonctionne pas parce que les gens à la base sont pas du tout préparés à prendre le pas, à emboîter le pas.
C'est ça. Ils doivent faire partie du processus, sinon on peut pas s'imaginer qu'ils vont être enjoués à participer, oui, là-dedans, à obéir finalement au boss.
Tout à fait, d'autant plus s'ils en subissent les conséquences.
C'est ça.
Alors en Chine, ils ont décidé d'aller de l'avant?
Oui, pour l'économie circulaire, leurs chercheurs en parlent depuis longtemps, en parlent presque constamment. C'est vraiment un milieu florissant que d'étudier les beaux exemples de réintroduction des déchets dans l'économie ou bien d'énergie verte, d'éco-quartier, on en parle souvent. Ça, c'est parce qu'ils sont confrontés, sous leurs yeux, aux graves problèmes de pollution.
Hein. Ouais.
Ça a été tellement rapide que... Finalement, ils étaient en plein là-dedans, dans l'économie linéaire, produire beaucoup, produire plus, faire des usines de produits de base, par exemple, les tissus, les jouets. Et ensuite, ils se disaient que ce serait le problème des générations futures que de régler les déchets, mais ça a été tellement rapide et en quantité tellement terrible qu'ils y sont déjà à être encerclés par la pollution atmosphérique ou les dépotoirs pleins à craquer. Alors, ils doivent faire quelque chose maintenant. Alors, Monsieur Jean-Claude Lévy, lui, a parlé des experts chinois qui réfléchissent sur la question et qui ont toujours tendance à citer le même article. C'est un article qui a, je dirais, parti ça, l'idée d'économie circulaire d'un Américain qui s'appelle Kenneth E. Boulding en 1966. Il écrivait un drôle d'article qui s'appelait « Economics of Coming Spaceship Earth ». C'est ça qui est curieux. Il veut qu'on imagine la Terre, finalement, comme un vaisseau spatial.
Ouais.
Un vaisseau spatial, parce que vous imaginez, on est tous dans le vaisseau spatial et on peut pas faire une escale pour évacuer la pollution, évacuer les déchets par la porte, par l'écoutille. On peut pas s'arrêter pour se dire, bon, on est à court de telle et telle ressource, on va en trouver ici. T'sais, non, en fait, c'est comme une fusée qu'on envoie vers la Lune. Hein.
Ouais.
Tout ce qui est à bord, c'est tout ce dont disposent les astronautes. Hein. Ils peuvent pas dire on a oublié une barre d'énergie. Non, non.
C'est une très belle façon de voir les choses, effectivement.
C'est ça. C'est plus le temps, du moment que tu es parti vers la Lune.
Alors, ça, cet article-là, on va le mettre sur le blog, avec d'autres ressources.
Oui, je mettrai beaucoup de liens utiles sur le blog dès demain.
Oui.
Alors, voilà. Et ils font, en fait, ce qui est très drôle dans cet article-là, c'est qu'il fait la différence entre, l'astronaute, finalement, qui veut conserver ses ressources, et l'économie du cowboy. Donc, il fait la différence entre l'économie du vaisseau spatial, l'économie du cowboy. Le cowboy, lui, est dans le Far West, et il voit des ressources partout. Il n'a qu'à les saisir, il n'a qu'à creuser pour le pétrole, il voit des bisons, il tire, il se pose pas de questions s'il va en manquer. Il voit une terre, il apprend, il dit c'est à moi, il la cultive de la manière qu'il veut.
C'est ça,
jusqu'à ce qu'elle sèche.
Il voit un Indien, il tire dessus qu'il lui empêche de prendre sa terre, c'est ça.
Alors, voyez-vous la différence entre l'astronaute qui est dans sa boîte de sardines, finalement, là, dans l'espace, et qui s'inquiète de peut-être en venir à manquer de ses ressources, mais surtout, s'il fait n'importe quoi, les déchets vont s'accumuler. Alors, c'est quelqu'un qui, je pense, garde l'esprit de long terme, hein, qui pense à long terme, faut pas manquer de ressources, faut être très intelligent dans ce que je fais, tandis que le cowboy, qui ne voit que de l'abondance autour de lui, il peut agir sans se poser de questions.
Je suis un petit peu plus vieille que vous, Étienne, mais quand j'étais enfant, c'est comme ça qu'on fonctionnait essentiellement chez mes parents. Là, il n'était pas question de gaspiller. Là.
C'est très vrai.
On récupérait tout. On se passait de frère en frère ou de sœur en sœur. C'était un tout autre monde. Là. C'est à partir des années 60, 70 qu'on s'est mis à acheter à mesure qu'on achète.
C'est ça, c'était une époque où le marketing commençait à être diffusé avec la télévision.
L'apparition de la télévision a aidé.
C'est ça. Des publicités qui disaient ce qu'on répétait sans arrêt, des slogans qui pourraient être consommés maintenant. C'était diffusé dans tous les foyers, tous les salons. Et voilà, c'était comme une grande période de bons technologiques. Alors on croyait que ça n'aurait pas de fin.
Tout à fait. Les Chinois, eux, ils ont vécu ça de façon compressée. C'est ça que je comprends.
Plus récente, plus rapide, plus brutale. Alors maintenant, ils déchantent dès aujourd'hui, finalement. Okay. Ils doivent.
Est-ce que concrètement, ils prennent vraiment le tournant?
C'est parce que c'est difficile à dire, parce qu'il y a quelque chose d'opaque à la Chine.
Oui, c'est vrai.
C'est ça qui a été très intéressant dans la conférence de M. Lévy, c'est que les investisseurs, là, nous, là, les investisseurs qui venons du Canada, par exemple, et qui voulons dire on va acheter des usines, on va investir en Chine, ils n'y comprennent rien. C'est mystérieux. Il y a plusieurs hiérarchies d'administrateurs, il y a les leaders chinois. C'est pas clair s'ils savent ce qui se passe en haut d'eux, ce qui se décide en haut d'eux, ce qui se fait finalement en dessous d'eux. Alors, c'est complexe. Ça, c'est parce que ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'il y a une grande autonomie en Chine. C'est très curieux, hein? C'est un milieu communiste, qu'on imagine le grand leader.
On l'imagine très centralisé, oui.
C'est ça. Mais en fait, du moins à l'heure actuelle, je peux pas dire pour l'histoire de la modernisation de la Chine, mais c'est très décentralisé. Si une région a besoin de se construire, par exemple, un centre d'épuration, c'est le maire qui doit trouver son financement. Là, Pékin ne va pas fournir l'argent, les plans, les idées, non.
Okay.
C'est le maire local qui consulte son monde, qui décide de ce dont sa région a besoin et qui trouve comment la financer. Ça se peut qu'il y ait des apports de l'étranger, surtout en technologie, mais peut-être en argent. Mais disons que c'est lui qui prend les décisions. C'est le local qui prend les décisions. Et
puis il y a beaucoup quand même de, comment dire, de corruption en Chine.
Oui, c'est sûr que ça brouille les cartes encore plus, hein, ça brouille les pistes. C'est assez difficile de voir les processus de décision. Vraiment, ça a l'air que le mot qu'ont à la bouche tous les investisseurs étrangers, c'est « où est le pouvoir? » Qui a le pouvoir ici? À qui je dois parler? Ouais. On entend presque « qui je dois soudoyer? » Mais c'est ça, ils ne le savent pas. Et je crois qu'il y a quand même beaucoup de bon à ce que ce soit des localités qui prennent des décisions, qui construisent au final. Et c'est aussi un état d'esprit que M. Lévy disait, son expression, c'était quelque chose comme « lorsqu'on impose, tout s'oppose. Lorsque le chef vient d'en haut et dit « je vous impose ceci », vous voyez déjà qu'on peut deviner que les gens ne seront pas contents.
Et il va y avoir toutes sortes de résistances.
C'est ça, des résistances, de la corruption, de l'opposition. On devine déjà qu'il y en aura bien plus que s'il y a du dialogue.
Oui.
Alors voilà, le dialogue a beaucoup de bon pour le développement, pour introduire les nouvelles façons de faire qui seraient plus vertes et écologiques. Parce que nous, l'écologie, on connaît ça depuis des décennies, mais est-ce que ça se fait vraiment? Des fois, on se demande quand est-ce qu'on va cesser d'en parler puis que ça va se faire. Je pense que le modèle chinois a beaucoup à nous apprendre pour ce qui est de l'autonomie des régions, qu'il n'y ait pas trop de bureaucratie qui vienne d'en haut pour finalement essayer de stopper les initiatives, presque de tuer l'énergie, la ferveur qu'il y avait dans la région ou dans la localité pour finalement y aller avec un plan ou une idée.
Est-ce qu'il vous a donné des exemples concrets?
Pour la Chine, il a manqué de temps, malheureusement. Je crois que c'est assez méconnu des chercheurs parce que l'économie circulaire, d'abord, est méconnue.
Ouais.
Mais disons qu'on est à cette étape-là de l'observation et de l'expérimentation, où est-ce que les chercheurs, et ça devrait vraiment être leur priorité, ce serait d'aller sur le terrain, un peu comme lui disait l'avoir fait au Québec, à sa venue au Canada.
Mm-hmm.
Et c'est de voir ce qui se fait et de pouvoir vérifier comment ça fonctionne. Lui, il a juste dit quelques mots sur les écoquartiers. Alors, quand il dit que ça peut sembler évident que quelque chose qui est vert, qui a le préfixe « éco » avant le mot, on peut croire que c'est évident que ça marche.
Oui.
Mais la preuve n'est pas faite. Les écovilles et les écoquartiers poussent un peu partout en Chine, parce qu'on l'a déjà dit, ça croule sous la pollution, alors faut agir maintenant.
Oui.
Alors là, on est à cette étape-là. Il y en a plein qui sont construits, faut s'y rendre, faut constater enfin si ça marche. Faut que quelqu'un, de manière très sérieuse, très rigoureuse, neutre, regarde si c'est du vent ou bien si ça a bien fonctionné.
On va faire une petite pause musicale, Étienne, et on va poursuivre par la suite. On va écouter IAM Artificiel. C'est une pièce instrumentale.
Thank you.
Nous sommes de retour. Je vous rappelle que vous êtes sur CKRL C89.1 ou www.ckrl.qc.ca. Vous allez pouvoir, en passant, réécouter l'émission en vous rendant sur la page de l'émission, Le Grain de Sable d'Attaque Québec. L'émission va être en podcast dès la fin, dès 13h, dès 14h30, pardon. Et après, évidemment, il y a autre chose qui va venir, c'est les geeks contre-attaque. Mais en attendant, on est toujours dans l'économie solide. Circulaire, pardon, avec Étienne Blondeau, j'allais dire économie solidaire, mais il y a une forme de solidarité au fond dans ce type d'économie.
Oui, parce que c'est vraiment les communautés qui prennent les décisions ici, c'est très important.
Oui.
Je parlais depuis le début de M. Jean-Claude Lévy, là, l'expert français. Moi, ce que j'ai trouvé comme lien pour ce qui est des chercheurs en France sur le sujet... C'est un lien que je peux vous donner. Je mettrai sur le blog après. Là.
Oui, tout à fait. Ça vaut la peine pour les auditeurs qui sont impatients d'aller voir. Oui.
C'est ça. Vous pouvez aller au institut-économie-circulaire.fr et vous pourrez avoir beaucoup plus d'informations de ce côté-là. Alors, finalement, pour le reste de sa conférence, il a couvert... d'abord, il a voulu rappeler au monde que... Ce qu'il donne, c'est pas un modèle parfait, c'est pas un modèle tout
trouvé. Rappelez-nous à quel moment il donnait cette conférence, Étienne.
Fin novembre, de mémoire, c'était le 30 novembre, okay. Et il revenait...
C'était dans le cadre d'un colloque, hein, c'est
oui,
ça?
Oui, le colloque sur l'économie circulaire, mais c'est qu'après, il a été invité par un institut de chercheurs sur l'Asie qui voulait qu'il l'amène la semaine suivante.
Savez-vous si les actes du colloque sont disponibles?
Moi, j'ai pas vraiment trouvé de compte-rendu ni de vidéo.
Bon, on fouillera tout ça, puis si c'est disponible, tant mieux.
Oui, je regarde.
C'est un petit message en passant. Les gens qui font des colloques comme ça, souvent, hélas, malheureusement, les actes ne sont pas disponibles, les vidéos non plus, alors que quand on va aux États-Unis, dans les principales universités américaines, on a tellement de matériel de disponible que le contraste est saisissant.
C'est vrai. C'est dommage sur ce point-là. Oui. Alors, voilà, lui, en fait, il se refusait à donner des espèces de grands secrets ou grands piliers de l'économie circulaire. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas des formules toutes faites, des modèles parfaits. Non, on est vraiment dans l'esprit du chercheur qui prend son bâton de marcheur puis qui va voir ce qui se passe de bon dans une région. Alors, c'est très important de le souligner à plein de reprises. C'est aussi important d'être ouvert, que tous les domaines soient intégrés à cette recherche-là, qu'on parle de foncier. Est-ce que les terrains sont bien utilisés? Parce qu'il faut évidemment pas faire des erreurs stupides comme détruire des terres qui sont bonnes pour cultiver.
Comment ça prête là à faire au cœur de la ville de Québec? Hein?
C'est ça. Ça, c'est un problème fréquent au Québec, de ce que j'ai entendu dire. Oui, il faut intégrer le foncier, il faut intégrer le financier, comment réussir à financer tout ça, il faut intégrer l'écologie, qu'elle cesse d'être simplement de la théorie, il faut qu'elle redescende sur le plancher des vaches, il faut intégrer les économistes. Alors voilà, finalement, c'est un projet, c'est une proposition, c'est une idée qui vise à réunir tout le monde, et c'est ça. Et aussi, il voulait rassurer ceux qui flairaient déjà le communisme. Par exemple, il y avait un entrepreneur qui, dans la période des questions, se demandait si ça allait tendre vers une sorte de modèle qui pourrait peut-être mettre en péril le droit à la propriété.
Oui.
Il voulait assurer que c'était pas le cas. C'était pas une idée de... En fait, les entrepreneurs vont pouvoir toujours faire leur travail, faire leur profit. C'est simplement qu'il doit y avoir, comme je disais, ce respect du territoire, ce respect de réintroduire et réutiliser les déchets. On n'est pas à fonctionner comme des cow-boys, comme je disais
plus tôt. Tout à fait.
Et finalement aussi, il disait que c'est circulaire, mais ça veut pas dire qu'on tourne en rond dans le sens qu'on ne développe plus rien, qu'on n'invente plus rien, que les petites compagnies sont condamnées à rester petites et à ne jamais grossir. C'est pas ça qu'il voulait dire. Il disait finalement, Finalement, quelqu'un dans cette conférence-là avait proposé l'idée d'imaginer ça comme une spirale. Oui, ça peut s'élever. Ça, mm-hmm. On peut repenser nos volumes de production. On peut faire plus, faire mieux. C'est toujours admis. Simplement, faut toujours avoir le respect de la nature.
Vous savez, ce goût de l'entrepreneuriat qu'ont plusieurs personnes et qui craignent finalement de ne pas pouvoir exercer parce qu'on se mettrait à contrôler l'économie, mm. Elles peuvent l'exercer à l'intérieur des entreprises d'économie sociale. Ça existe, l'entrepreneuriat social. Et je crois que l'avenir est de ce côté-là, beaucoup plus que du côté de l'entreprise privée, à mon humble avis.
Je suis parfaitement d'accord. Moi, je suis plutôt du genre à croire que dans une société, il faut une diversité de modèles.
Voilà.
Faut pas que toutes les entreprises aient le même modèle. C'est pour ça que peut-être que je serais frileux à l'idée que, par exemple, tout le monde passe à 100% à l'économie sociale.
Non,
peut-être pas jusque-là.
C'est impossible de toute façon.
C'est vrai.
Il faudrait rêver pour penser ça, là.
Faut simplement de la diversité, ça permet de voir les avantages des uns, les avantages des autres, comment ils réagissent au coût de l'économie.
Oui, tout à fait. Mais cette façon de penser, de voir les choses, où on s'assoit ensemble et on regarde ensemble qu'est-ce qui peut être fait, bien, ça amène de toute façon à penser en termes d'économie d'avantages sociaux.
Oui, tout à fait. Et je crois que je pourrais terminer en parlant de quelques petits exemples qu'il donnait plus sur l'histoire, parce qu'il disait que, en fait, c'est ça, c'est pas nouveau, ces idées-là de recyclage ou de respect des capacités de l'environnement. Lui, en fait, il a parlé de sa jeunesse. Lui, dans sa jeunesse, c'était la guerre en France, c'était l'attaque des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, pendant ces années-là, lui, il constatait autour de lui, là, d'après ses souvenirs, une espèce de recyclage.
Ouais.
Les gens qui avaient à survivre avec peu de choses en temps de guerre recyclaient au maximum tout ce qu'ils pouvaient. Et parce qu'il finalement, il pouvait pas s'inventer des nouveaux produits ou polluer comme il voulait. Là. C'était une nécessité dans son cas. Et il parlait même d'autres exemples écologiques très anciens, là. Il disait qu'en Chine, il y a trois siècles de ça, il y avait déjà des espèces de maisons rondes qui sont proches du niveau du sol, là, pas des maisons qui essaient de s'élever à plusieurs étages dans les airs, et qui régularisent la température à l'intérieur de la maison à l'année, que ce soit l'été ou l'hiver, par cette proximité-là avec le terrain, par la forme, par les matériaux naturels. Alors même en retournant des fois des siècles dans le passé, on peut voir des exemples très inspirants.
Bien, merci beaucoup, Étienne. C'était inspirant, effectivement, ce sujet de l'économie circulaire. Soit-on que vous ayez été plusieurs à être influencés par le contenu de l'émission d'aujourd'hui. Sinon, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission, Le grain de sable d'Attaque Québec. Et entre-temps, vous vous rendez sur l'adresse du blog. Rappelez-nous l'adresse, Étienne. C'est quoi? C'est WordPress?
Je pense que c'est le grain de sable
qc.wordpress.org ou .com.
Oui, de mémoire, je pense que c'est .org. Oui.
Enfin, voilà, vous avez la possibilité d'essayer un ou l'autre, allez vous rendre sur le site. On va se laisser en se souhaitant ce qu'on doit tous se souhaiter pour l'année 2015. J'en profite d'ailleurs, chers auditeurs, pour vous souhaiter une magnifique année 2015. On se souhaite la paix avec Amadou et Mariam. À la semaine prochaine. Mauritanie, Sénégalais, Guinée, Ghana. Vivez la solidarité entre le peuple. Yeah.
Téléchargez Le Grain de Sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.
Kalachnikov, la compagnie, a décidé de refaire un branding, de refaire l'image du très vieux et quand même vénérable fusil, le AK-47. À partir de maintenant, le Kalachnikov, mesdames et messieurs, est une arme de paix.
Toute l'actualité techno dans l'émission Les Geeks contre-attaquent dans un instant.
Ouais, c'est ça. C'est des chips de 6 pouces. Ouais, de large et de 4 mm d'épais.
Voilà.
Ouais. Ils sont plus gros que les chips ordinaires en plus.
Qui viennent avec un petit sachet, que ça a l'air de la mayonnaise, mais en réalité, c'est du Saint-Doux.
Ouais. Puis il y a comme plus de sel dedans.
Puis en dedans, il y a du gravy.
Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est la sauce qui tient le sel ensemble. Le
oh my god, qu'on est rendu loin.
Le sac lui-même est frit. Les propriétés Marvel, Disney, oh Star god. Wars, Square Enix, Final Fantasy. Dans la série qui.
Pour une troisième année, la Ligue québécoise l'Impro BD prendra d'assaut la scène du Cercle pour présenter ses affrontements mensuels. L'Impro BD, c'est un spectacle unique unissant jeux, dessins et musique où tout est mis en place pour tirer le maximum du talent et de l'imaginaire des joueurs. Prochain match, dimanche 18 janvier 20h au Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est. Entrée, 5$. La Ligue québécoise d'Impro BD est une présentation du Festival de la BD francophone de Québec en collaboration avec CKRL.
Alors, est-ce que monsieur a choisi?
Oui, je vais prendre le tartare de saumon, s'il vous plaît.
Donc, le tartare de saumon, plus les joues de bœuf, le risotto au cèpe, le feuilleté de légumes...
Ah non, excusez.
La bisque de homard, la poutine au foie gras...
Excusez.
La salade d'artichaut...
Mais...
Et le poulet de cornouailles aux abricots façon marocaine. Ce sera tout?
Ouais.
Attendez-vous à plus. Avec la carte boutique voir.ca, vous recevez jusqu'à 40% de plus chez vos marchands favoris. Passez-nous voir sur boutiquevoir.ca.
CKRL présente le Geek Contre-Attaque.